J'ai regardé mon agenda sur 15 jours à l'avance. Méthode GTD, si vous connaissez. Et j'ai repéré ce rendez-vous important le mardi sur Paris. J'ai prévenu ma femme quelques jours à l'avance que je ne pourrais pas, comme d'habitude, gérer les enfants à midi. Comme ça, on a pu s'organiser. J'ai même prévenu mes collègues à l'avance. Normalement, je les appelle le matin, je ne suis pas là aujourd'hui, je suis au rendez-vous. Et j'ai donné des consignes pour la journée. J'ai regardé les horaires de RER et de métro le jour avant. Haussmann-Saint-Lazare, puis métro 13 jusqu'à Montparnasse. Simple. Et je suis allé prendre mes tickets le jour avant pour ne pas être pressé le jour même. Le jour J, je me pointe à la gare d'Emerainville-Pontault-Combault. J'ai pris une demi-heure, trois quarts d'heure de marge en cas de problème. Bon, première annonce, il y a des difficultés sur la voie. Sans blague. Classique pour ceux qui prennent le RER E tous les jours. Je vous apprends rien. Petit retard donc. Et les trains ne vont pas jusqu'à Saint-Lazare, mais s'arrêtent à Gare de l'Est. Seulement. Bon, petit brainstorming pour moi qui ne prends pas les transports tous les jours. On va s'adapter. Je regarde, je ne pourrais pas prendre la ligne 13 comme prévu. Bon, je prendrai la ligne 4 à la Gare de l'Est, ça va le faire. Et j'ai encore de la marge avec ce petit retard. Arrivé à la Gare de l'Est, je marche jusqu'au quai de la ligne 4. C'est long. Et là, le quai noir de monde. Annonce au micro. Gros ralentissement sur la ligne. Ah ! J'en laisse passer deux sans pouvoir monter dedans. Je regarde ma montre. Je me dis qu'il me faut un plan B, là. Allez, c'est parti pour un détour au pas de course. Ligne 7, quelques stations, puis ligne 8 pour rattraper enfin la ligne 13. Ça va le faire, ça va le faire. J'arrive enfin à Montparnasse, avec même quelques minutes d'avance. Alors, je me pose sur un banc au cimetière du Montparnasse, à l'ombre d'un arbre, juste à côté des bureaux où j'ai rendez-vous, histoire de ne pas arriver en nage, hein, mais bien détendu. Sérieux, je prends mon téléphone et je relis vite fait les mails échangés avant la réunion pour me replonger dedans. Et là, gros moment de solitude. Gros moment de solitude. Je me suis trompé en entrant le jour dans l'agenda. Le rendez-vous, c'est jeudi et c'est pas mardi. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour rien. Bienvenue dans ma vie. Mais peut-être, bienvenue dans votre vie aussi. Est-ce qu'on n'a pas des fois ce sentiment de faire des choses pour rien ? Que notre vie compte pour rien ? Et en lien avec Pâques, l'Évangile nous parle aussi d'une vie qui compte et d'une vie qui compte pour rien. Et on va lire ce magnifique passage dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 14. On va le lire ensemble. On va l'afficher. Mes frères, dit l'apôtre Paul aux gens de l'église de Corinthe, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Là, je passe quelques lignes dans le texte et j'arrive. « Bref, dit l'apôtre Paul, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ lui-même, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Je relis le dernier paragraphe. « Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Et s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. » Autrement dit, on peut se dire que l'enseignement de Jésus, c'est la bonne manière de vivre, que c'est une bonne philosophie, c'est sympa. Mais s'il n'y a pas ce poids de foi supplémentaire, s'il n'y a pas Pâques, si Jésus n'est pas ressuscité, et si nous ne ressusciterons pas, et si nous ne croyons pas à ça, cela ne sert strictement à rien du tout. C'est sans fondement, vain, nous dit l'apôtre Paul. Même plus loin, au chapitre 19, il dit que dans ce cas-là, les chrétiens sont les plus à plaindre du monde. Mais c'est vrai, quoi. À quoi bon s'embêter à essayer d'aimer son ennemi, d'être fidèle, etc., etc. Si le Christ n'est pas ressuscité, si nous ne ressusciterons pas aussi. L'actualité récente a été bien sûr marquée par l'incendie de l'église de Notre-Dame. Et je dois avouer, j'en aurais pu faire une belle illustration sur la destruction et le renouveau à venir, peut-être. Mais c'est un autre événement qui, personnellement, m'a beaucoup plus ému ces derniers jours. Beaucoup plus ému. C'est cet arbre centenaire, en apparente bonne santé, qui est tombé sur des enfants dans une cour d'école à Montauban. Résultat, des heures pour extraire deux enfants. L'un a fini avec une jambe amputée, l'autre le torse écrasé. Des séquelles à vie. Et c'était bizarre d'avoir ces deux histoires en parallèle. Et je me mets à la place des parents. Je me mets à la place des parents. Et si je suis honnête devant vous, moi je dois vous dire, je ne sais pas si ma foi serait assez forte si quelque chose comme cela touchait mes enfants. J'en sais rien. J'ai prié pour ses parents, et peut-être vous l'avez fait aussi et vous le ferez. Et face à la cruauté, face à l'absurdité de la vie, il n'y a pas 100 façons de réagir. Face à la cruauté ou l'absurdité de la vie, il n'y a pas 100 façons de réagir. Premièrement, on peut choisir de lever le poing contre un Dieu sadique qui ne fait rien ou qui prendrait plaisir à de tels événements. Lié à ça, on peut vivre dans la peur, la superstition. On évite de parler de ce genre d'événements. Vous n'aimez pas là que j'en parle. On les oublie vite de peur que cela nous arrive à nous aussi. Le mauvais œil, vous connaissez ? Peut-être que vous avez été élevé comme ça. Deuxième chose, deuxième réaction possible. On peut croire à une force qui s'appellerait le karma. Tout ce qui vous arrive, c'est mérité. Dans cette vie ou dans une autre. Allez le dire à ses parents, je vous en prie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire dans les évangiles où des gens viennent voir Jésus et lui disent « Il y avait un événement comme ça, une tour était tombée sur des gens, ils s'étaient écroulés. » Et Jésus a balayé le fait que les gens l'avaient mérité ou pas. Troisième réaction possible. On choisit de ne croire en rien. Le monde n'a aucun sens. Il n'y a pas de Dieu. Le monde est absurde. Et à ce moment-là, tous les choix de vie se valent. Il y a des winners, il y a des losers. c'est comme ça. C'est comme ça jusqu'à ce que la vie vous rattrape et que vous soyez victime des gens qui ont choisi d'être violents, en tout bien tout honneur. Ou bien, quatrième et dernière possibilité, il y a une folie, comme dit l'apôtre Paul, il y a une folie. Et c'est la foi chrétienne, pleine, celle qui croit que le monde s'est perdu, mais que Dieu l'aime de tout son cœur, qu'il s'est fait homme et que par sa mort et sa résurrection, il ouvre un chemin. On l'a vu dans la vidéo, ce chemin qui mène au ciel, du tombeau jusqu'au ciel. Il ouvre un chemin au renouvellement de la création et à notre renouvellement. Comme disait un des premiers pères de l'Église Irénée, Dieu s'est fait homme pour que l'homme participe à la vie de Dieu. En parlant de chemin, chaque jour de la semaine, je marche avec mon plus jeune fils Romain pour aller jusqu'à l'école maternelle. On a le choix entre plusieurs chemins, mais notre préféré, il passe par un petit parc avec un petit pont qui passe au-dessus du Morbra. En 4 ans, depuis la toute petite section, ce parc, nous l'avons vu dans tous ses états. Inondé, sous la neige, avec ou sans canard, sali par des fêtards, avec un rat, une fois. On y croise la maîtresse qu'il aimerait bien avoir au CP. Bon, on n'est pas des grands bavards tous les deux, mais on y va de notre commentaire quotidien sur le chemin à chaque fois, sur ce petit parc. C'est bientôt fini, il va passer au CP, j'ai déjà la nostalgie de ces moments. Et vous savez, le moment que l'on attend surtout chaque année tous les deux, le moment où on est le plus content de passer par le petit chemin, comme on dit, c'est au sortir de l'hiver, quand les 2 cerisiers avant le pont sont en fleurs. On est content, ça nous redonne le sourire. On les aime bien, ces cerisiers en fleurs. Pas étonnant que les Japonais en aient fait un moment quasi religieux quand les cerisiers sont en fleurs. Et moi, je suis sûr que vous aussi, au printemps, il y a une plante dans votre jardin ou ailleurs qui vous redonne le sourire. Ou alors, messieurs, c'est simplement de pouvoir ressortir le barbecue après un long sommeil. Il est un peu au tombeau. Et pourtant, ce renouveau au printemps, ce n'est qu'une pâle image de ce qui attend la création et ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Ce n'est pas la résurrection qui est une image de Pâques ou du printemps, c'est le printemps qui est une pâle image de ce qui nous attend. Autre texte de Paul dans Romains 8, 22, magnifique. « Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant, comme une femme qui accouche, mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. » L'espérance chrétienne, elle est là. Jésus-Christ a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant. C'est une folie, j'ai dit. Mais dans le texte, on voit bien aussi que ça s'appuie sur des témoins fidèles. Et on voit bien que l'apôtre Paul avait vécu quelque chose d'extraordinaire sur le chemin de Damas. Mais ça ne l'a pas empêché, avec Luc, qui le suivait, de mener une enquête précise sur les 500 personnes qui ont vu le Christ à la résurrection. Et si vous lisez Luc dans son évangile, c'est une enquête historique précise qu'il fait. Nous nous appuyons sur des témoins fidèles. Et au moment fixé, Jésus redonnera à la création toute sa gloire. Nous aimons les cerisiers en fleurs, nous n'avons encore rien vu. Et les hommes et les femmes qui lui appartiennent, il les fera revivre en chair et en os. L'espérance chrétienne, ce n'est pas qu'après la mort, nous sommes un petit esprit qui vogue quelque part dans les limbes. C'est que, par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ a gagné le droit de nous faire revivre en chair et en os, dans un corps renouvelé, incorruptible, comme nous dit la Bible. Qu'est-ce que c'est l'âme? Tout le monde ne sait pas trop. Qu'est-ce que c'est d'avoir une âme? Laissez-moi vous en donner une définition. C'est la mémoire de ce que nous avons été, corps et esprit, que garde précieusement le Seigneur. Dieu se souvient du moindre petit oiseau, nous dit-il dans l'évangile de Luc. Dieu se souvient du moindre petit oiseau et tous vos cheveux sont comptés. C'est la mémoire de ce que nous avons été corps et esprit que garde précieusement le Seigneur. Comme nous gardons précieusement sur un disque dur les photos, les vidéos, bref, la mémoire des gens que l'on aime. Nous gardons dans notre cœur les gens disparus, mais notre amour, il n'est pas assez fort, pas assez parfait pour les faire revenir. C'est le plus grand des mystères. Par son amour parfait, Jésus-Christ a vaincu la mort. Et par cet amour parfait, il fera revivre ce qu'il garde en mémoire, ce qu'il garde dans son cœur. C'est cette espérance, que dis-je, cette assurance qui rend valable une vie de chrétien. Une vie de sacrifice marquée par la reconnaissance, par la fête. Une autre image pour comprendre ce mystère. J'ai déjà dit, je pense ici, à titre personnel, je ne suis pas fan des tatouages. On parlait des cicatrices, on parlait des tatouages. C'est un goût personnel, je le redis. Je n'ai pas de verset biblique à l'appui. Et je vous rassure, j'ai remarqué que certains ici en ont un discret. Et parfois, je me trouve à trouver cela beau et bien choisi. Mais devant mes enfants, je suis ce vieux réac, papa poule, qui dit « moi vivant, jamais ». Je n'ai pas envie d'un choix sur un coup de tête qu'il puisse regretter plus tard. Alors, quand j'ai vu il y a quelques semaines sur un site internet de théologie protestant sérieux, un article intitulé « Dieu aime les tatouages », j'ai fait ma tête de sceptique arrogant et je me suis empressé d'aller lire. En fait, c'était un titre très malin. L'auteur voulait nous amener à ce magnifique texte d'Ésaïe 49,15. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allaite? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Mais même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de ma main. Je relis, il est magnifique ce texte. Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allaite? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. La traduction littérale, c'est « je t'ai gravé sur la paume de mes mains ». Tu es une antisèche à jamais sur la main du Seigneur. Il ne peut pas t'oublier. Et voici aussi ce que dit le Seigneur. Voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir aussi sur mon siège royal. Dans l'Apocalypse. À Pâques, le Seigneur a vaincu la mort. C'est ce que nous célébrons. C'est une fête. Il est vivant et il t'appelle à participer à sa vie. Il ne force pas le chemin de ton cœur, mais il t'invite de tout son cœur à lui à participer à ce repas de fête. Prends ce chemin de la résurrection. Pour finir, si tu veux, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes fautes. Je crois que tu es ressuscité au troisième jour comme tu l'avais annoncé. Tu es sorti du tombeau, tu es vainqueur, tu es vivant et j'accepte avec joie ta grâce. À mon tour, tu ne me laisseras pas dans la tombe, mais je te verrai face à face. Toi, mon Dieu, mon maître, mon ami, mon frère, gloire à toi. Je vivrai à jamais dans ta nouvelle création. Aide-moi à vivre dès à présent dans la reconnaissance, digne de ton amour. Amen. Dieu vous bénisse.